Et une semi-sieste.
Ben, nous, ça laisse à désirer. Hein.
Hein ah. On a trop bien mangé. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, merci de persévérer, de me supporter encore cet après-midi. Et donc ce matin, on a brossé un tableau de ce qu'est le prophétique bibliquement. J'espère qu'on a réussi à se mettre d'accord sur le fait que c'est encore pour aujourd'hui, que Dieu veut que nous puissions le vivre pleinement. Et on va aller plus loin dans cette deuxième session pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, entrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de pratique, mais en restant toujours un peu scolaire, entre guillemets, excusez-moi, mais il y a de quoi écrire des livres et des livres sur le sujet et approfondir ce que la Bible donne comme conseil et comme exemple. Donc, je vais rester quand même très proche des textes. On va retracer encore des choses avec des versets qui nous permettent de comprendre de quelle manière Dieu nous appelle à vivre tout ça. Et j'en profite pour dire que je ne suis pas forcément ici ce week-end pour donner des paroles prophétiques. Mon rôle, c'est de vous permettre de rentrer vous-même ou d'aller plus loin dans votre vie prophétique. Donc, l'idée, c'est en partie que vous puissiez, dans ce temps, à la fin de cette session et puis aussi certainement durant le temps ce soir, aller prophétiser les uns sur les autres et puis rentrer plus loin dans cette démarche par vous-même. L'objectif étant de vous permettre de peut-être mieux comprendre, mieux connaître, mieux savoir comment vous diriger dans le prophétique. Donc, à ce propos, la première chose, c'est de se dire la vie prophétique, ça peut se vivre de plein de manières différentes. Et la première chose à savoir, c'est que on a, en tant que croyant, des façons de vivre dans le surnaturel, comme je disais globalement, qui vont être différentes selon ce que Dieu met sur nos vies. Et dans le prophétique, ça va être la même chose. On a entendu ce matin, au travers de la Bible, tous peuvent prophétiser. Paul qui encourage tout le monde à chercher le don de prophétie, mais tout le monde ne va pas recevoir ce don, tout le monde ne va pas le vivre d'une manière aussi intense que son frère ou sa sœur. Et en fait, il y a des niveaux de prophétique. Il y a 4 niveaux. Le premier, c'est le fait que tout chrétien peut être inspiré par le Saint-Esprit pour donner une parole prophétique de manière ponctuelle, que ce soit très rare ou rare, on va dire, sans que ce soit quelque chose de très fort dans sa vie, mais voilà, on est tous, en tant que chrétiens, à vouloir entendre du Saint-Esprit des choses à partager. Et des fois même, on peut partager une parole prophétique sans s'en rendre compte. Mais on se laisse juste inspirer par des paroles qu'on peut donner. Ça, c'est le premier niveau. On espère que tous les chrétiens peuvent de temps en temps avoir quelque chose de prophétique à partager. Le deuxième niveau, c'est de vraiment recevoir un don. Et comme on a vu bibliquement, le don, c'est quelque chose qui va être particulier et qui va définir une capacité surnaturelle particulière qui est donnée à quelqu'un. Et donc là, ça va permettre à cette personne d'aller vraiment plus loin dans la quantité, la qualité de choses prophétiques qui vont être vécues. Y a un troisième niveau qui est peut-être un peu plus compliqué à cerner, qui va être l'onction prophétique, qui est définie, alors c'est pas moi qui ai juste hier matin choisi de définir ces niveaux-là. C'est vraiment ce qui est dit au travers de prophètes reconnus et qui ont des ministères reconnus et qui disent voilà, on a saisi quels sont les niveaux d'implication dans le prophétique que Dieu peut donner. Et l'onction prophétique va, au-delà du don, va permettre d'avoir cette capacité à saisir ce que Dieu veut faire dans l'esprit. Le mouvement du Saint-Esprit, que ce soit dans une rencontre, que ce soit sur une ville, que ce soit sur un pays, d'avoir une vision qui est comme plus large. Et moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, à Las Vegas, d'aller à une conférence prophétique, où là, il y avait des prophètes qui sont dans le ministère. Donc, ils ont le niveau prophétique, le quatrième niveau prophétique qui est le ministère, mais de voir à quel point ils avaient cette compréhension de ce que le Saint-Esprit peut faire sur des régions entières. De dire sur l'Asie, on discerne à quel point le Saint-Esprit est en train d'agir de telle ou telle manière. Donc c'est voilà, l'onction prophétique permet, en plus du don, d'avoir cette compréhension, cette vision un peu particulière. Et donc le quatrième niveau, c'est le ministère de prophète, qui, là, est en lien avec l'appel de Dieu. Au-delà de la capacité à prophétiser, ça va être un appel. Et le premier objectif de cette session, ça va être de réussir à comprendre un peu les différences pour savoir, chacun puisse essayer de comprendre ce que Dieu l'appelle à vivre dans le prophétique. Alors, la première chose par rapport à ces niveaux de prophétique, c'est la différence entre la prophétie ponctuelle et le don. On voit à plusieurs reprises, par exemple, Saül, qui va se mettre à prophétiser, parce qu'il se retrouve en compagnie de prophètes, et puis l'Esprit Saint est là, il agit, puis ça va influencer les autres personnes. Saül n'était pas prophète. Il n'avait pas un don de prophétie non plus, dans le sens où il allait donner très régulièrement des paroles. Ça lui est arrivé d'avoir des prophéties ponctuelles parce que les circonstances faisaient qu'il était dans un milieu, dans une espèce de dynamique qui lui a permis de prophétiser. Et on voit ça à plusieurs reprises dans la Bible, des personnes qui peuvent vivre des choses prophétiques sans avoir le don de prophétie ni le ministère prophétique. La différence maintenant entre le fait d'avoir le don de prophétie et le ministère prophétique. Le don, on peut lire, il y a une vraie différence, je veux dire, elle est biblique, on peut lire dans Actes 21 au verset 9, Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Agabus, on en reparle, et on sait qu'il a prophétisé des choses qui se sont réalisées. Alors, il n'est pas dit que Philippe avait des prophétesses. Ses filles étaient prophétesses. Il y en a dans la Bible, il y a des prophétesses. Là, on nous dit les vierges, ses filles prophétisaient. Et il y a un prophète. C'est comme si, dans les Actes, Luc veut nous montrer qu'il y a des personnes qui prophétisent et il y a des prophètes, de différencier le fait d'être dans un don prophétique et d'être prophète. Dans 1 Corinthiens 12, 28, on lit « Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? C'est une question rhétorique, on va dire, que Paul pose ici. Bien sûr que non. Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Et il différencie ici les dons spirituels du ministère, que ce soit prophétique ou autre. Et dans Éphésiens 4:11, on a aussi Paul qui dit « Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » On est donc tous invités à prophétiser, mais on n'est pas tous appelés à être prophètes. dans le sens de ministère. Et la différence qu'on peut faire, c'est que le don de prophétie va être un don du Saint-Esprit que tout chrétien peut recevoir, alors que le ministère de prophète, c'est un don de la part du Christ. Le don de prophétie, ça va être quelque chose à faire. On va aller apporter une parole. Le ministère de prophète, ça, c'est le fait d'être quelqu'un avec un appel précis. Et c'est pour ça que je disais qu'il peut tout à fait y avoir un prophète qui est là, mais qui ne va pas forcément prophétiser. Mais le ministère est d'équiper les saints. On va voir après. Tous les croyants sont exhortés à rechercher le prophétique. Mais Dieu choisit les prophètes et ce n'est pas notre choix. L'appel, c'est la destinée que Dieu a prévue pour nos vies. Il suscite en nous forcément des choses qui vont nous assoiffer par rapport à ce qu'il veut nous donner. On va essayer de chercher sa volonté pour nos vies. Mais c'est Dieu qui choisit, qui dit précisément telle personne est appelée à un ministère spécifique. Alors, le don de prophétie sert à l'édification, à l'exhortation, à la consolation, on l'a vu ce matin. Le ministère de prophète va être plus dans le fait de diriger, mais aussi de corriger, de gouverner, d'équiper. Donc ça va être des dimensions différentes d'implication. Le don de prophétie est une capacité. Le ministère de prophète est un don. C'est-à-dire que sa personne va être donnée à l'Église. Le don de prophétie, pour résumer les choses, en fait, j'ai essayé de faire juste deux phrases qui permettent de résumer la différence. Le don spirituel, c'est une capacité surnaturelle qui est offerte à une personne par le Saint-Esprit pour l'édification des croyants. Donc là, on a l'objectif, la source du don spirituel. Ce don est donné à une personne, on donne une capacité, le Saint-Esprit donne une capacité à une personne pour aller édifier les croyants. Le ministère, c'est une personne offerte à l'Église par Jésus-Christ et pour l'édification du corps. Donc il faut vraiment différencier une capacité à un don qui peut être très fort, très puissant, très pointu, de l'appel, qui est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et la difficulté, c'est que les ministères dons, comme j'avais cité les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, dans ces ministères, le plus compliqué à mettre le curseur, c'est la prophétie. Pourquoi ? Parce que c'est le seul pour lequel il y a un don spirituel qui correspond. C'est-à-dire, il n'y a pas un don spirituel d'apôtre. Il n'y a pas un don spirituel de pasteur. Par contre, il y a un don de prophétie. Et donc, le raccourci est très rapide entre « j'ai un don de prophétie, donc je suis prophète ». Il ne faut pas faire ce raccourci. Vraiment pas. Parce qu'une personne qui va vouloir veut obtenir une position de ministère qui n'est pas celle que Dieu lui prévoit, il va se faire mal à lui-même, il va faire mal aux autres. Donc, Paul nous dit « aspirez au don », mais il faut que tout son prophétise. C'est une joie immense à chaque fois qu'on apporte une parole qui bénit quelqu'un d'autre. Par contre, ce que tu vas faire de ta vie, si Dieu t'appelle à un ministère, ne le choisis pas. Si Dieu ne l'a pas dit et confirmé et reconfirmé, ne te lance pas dedans. Prophétise, mais ne cherche pas à avoir une place de prophète, ne cherche pas à être reconnu, ne cherche pas à avoir un titre, parce que c'est là que ça commence à se transformer en quelque chose pas forcément d'orgueilleux, parce qu'on va être là quand même pour servir Dieu. Mais l'intention commence à dévier de « je veux servir les autres au travers de ce que Dieu me donne » et de « je veux être reconnu ». Et là, il faut faire très attention. Parce que finalement, on n'a pas besoin d'être reconnu prophète pour prophétiser. Et on n'a pas besoin dans l'Église d'avoir un titre, quel qu'il soit, pour être efficace pour le royaume de Dieu. Et c'est ça l'important. Donc, le titre, à vrai dire, c'est pas important. Par contre, de savoir est-ce qu'on a un appel au ministère ou est-ce qu'on a un don, je dis pas est-ce qu'on a juste un don. Est-ce qu'on a un don ? C'est pas inférieur. Le fait d'avoir le don spirituel, on n'est pas inférieur à celui qui a l'appel. On a juste une destinée différente. Et donc, il ne faut pas vouloir à tout prix, comme je disais à mes amis hier, je dis, je suis docteur, j'ai un doctorat. Est-ce que je veux qu'on m'appelle docteur de l'épine ? Non, je m'en fiche. Les gens ne savent pas, je m'en fiche. Donc, à quel moment ça va m'importer qu'on m'appelle prophète Étienne ? Non, c'est certainement pas. Je m'en fiche que les choses soient sues, que les choses soient dites, je m'en fiche du titre. Moi, si à la fin on peut me dire, j'ai reçu une parole, je ne sais plus qui c'était, mais alors ça m'a touché, j'ai été béni, merci Seigneur, moi je m'en fiche qu'on retienne mon prénom, m'est égal. Donc l'idée, c'est vraiment de chercher le don, oui, mais de chercher quel est le positionnement dans le prophétique que Dieu nous demande d'avoir. Et il peut y avoir, par exemple, Bernard a un don prophétique vraiment fort. Il est pasteur et pour moi, il a un appel d'apôtre. Donc, il y a toute une panoplie de choses qu'on a, que Dieu, le Saint-Esprit donne, d'appels, de missions. Tout ça, c'est à réfléchir de manière posée et sans vouloir s'imposer, et sans vouloir chercher une reconnaissance, parce qu'il faut savoir que toute reconnaissance qu'on a sur terre, elle s'enlève du ciel. C'est biblique. Ils ont reçu leur gloire. Donc, je n'ai pas noté le verset là, mais il y a un verset qui parle de ça. L'autre chose, avant de passer à la suite, qui est plus intéressante, enfin pas plus intéressante, mais plus dans le pratique, c'est, je vais juste vous lire Jacques 5, verset 10. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » C'est-à-dire que pour Jacques, le ministère de prophète n'est pas quelque chose qui arrive avec facilité, mais ça passe par des circonstances qui forment le caractère, qui forment le ministère prophétique que vous n'avez peut-être pas envie de vivre. Et chacun a apporté sa croix, comme on dit, et elle correspond à ce que Dieu nous demande, les choses par lesquelles il veut nous faire passer, selon l'appel qui est le nôtre. Et quand on voit par quoi sont passés beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament, on dit en fait, non. Non, c'est pas une bonne idée en fait. Donc voilà, qu'on puisse juste se dire, on n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur, on est juste ensemble avec des capacités, des appels qui sont complémentaires. Donc le ministère devient une personne qui est donnée pour l'édification du corps. C'est Éphésiens 4, 12 qui dit « Il l'a fait, donc il a donné tous ses ministères, pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Donc voilà, le rôle du ministère va se différencier en particulier parce qu'il est là pour aller équiper les saints et pour aller pour se reproduire. Le prophète va se reproduire, c'est-à-dire il va susciter des personnes qui vivent le prophétique. Et avoir un prophète à côté, ça ne se substitue pas au fait d'avoir à écouter Dieu pour nos propres vies. Alors, ce dont on va parler maintenant, c'est essentiellement le don de prophétie, puisque C'est ce que Paul nous incite à rechercher principalement. Et la question, c'est de dire, bon, comment ça marche, comment ça s'obtient, comment ça se travaille. Donc j'ai pas mal de choses. Je vois que ça fait déjà 2 heures que je parle. Et je vais essayer de dire le maximum de choses intéressantes, sans trop... Alors, première chose, 1 Corinthiens 14:1, rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Je pense qu'à la fin, on va le savoir par cœur. C'est un verset quand même très important. Et ça veut dire qu'il y a un désir qui est sain. Comme je disais tout à l'heure, le désir d'être reconnu, c'est malsain. Le désir de recevoir un don spirituel pour servir Dieu, pour servir les autres, c'est un don qui est sain. S-A-I-N. Après, il faut voir avec justement quel est notre cœur, pourquoi on désire. Est-ce que c'est pour l'effet « waouh » ou est-ce que c'est, comme je disais en introduction ce matin, de faire les choses par amour. N'empêche que on peut aspirer, on peut demander, mais c'est Dieu qui est souverain. Et il va donner à chacun, comme on a déjà lu, d'ailleurs je l'ai là, 1 Corinthiens 12, verset 11, toutes ces choses, les dons spirituels, c'est un même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc on peut se dire qu'on aimerait avoir un don prophétique fort, mais ça se trouve, Dieu va vouloir nous équiper avec d'autres choses. Et le don de prophétie, oui, tous ont à prophétiser, on peut le faire, mais dans quel niveau de profondeur, ça dépendra aussi de ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de nous. Et j'avais cette image, peut-être un peu raide, mais de dire on ne donne pas un couteau à un bébé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les dons spirituels, c'est une puissance. Et Dieu ne va pas forcément donner des dons spirituels juste parce qu'on a compris qu'il faut aspirer et qu'il y a un processus. Mais Dieu peut attendre aussi qu'il y ait des choses qui soient en place dans nos vies pour nous permettre d'acquérir des choses. Parce que, comme je disais, c'est une capacité avec laquelle, si c'est mal géré, on peut faire des dégâts. Donc, il y a une question aussi, on verra après, de maturité. Le cœur est très important, comme je l'ai répété, c'est-à-dire l'objectif, c'est de chercher Dieu, parce que l'important, ce n'est pas le don. L'important, ça va être la relation à Dieu. Et en fait, moi, ce que je trouve extraordinaire dans la prophétie, c'est que c'est une communication avec le Saint-Esprit. Et plus on rentre dedans, plus on a... C'est d'avoir cette impression qu'on peut être en discussion vraiment avec Dieu. Et je trouve ça fabuleux. Et c'est en approfondissant la relation avec Dieu qu'on arrive à approfondir et à faire croître le don spirituel. L'objectif étant toujours, comme je disais, de bénir l'autre, d'avoir cette motivation de bénir l'autre. Et c'est ça que je trouve fort, j'en avais parlé quand j'ai prêché cet été ici, quand Paul, de 1 Corinthiens 12 à 14, parle de la vie spirituelle, il y a 1 Corinthiens 13 au milieu qui parle de l'amour. Et il faut vraiment que tout ça soit lié, que les dons spirituels soient absolument vécus dans l'amour. 1 Corinthiens 12:31, à la fin de ce chapitre, Paul dit « Aspirez aux dons les meilleurs, mais je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et là, il déroule 1 Corinthiens 13 sur l'amour. La voie par excellence pour vivre les dons spirituels, c'est l'amour. Ensuite, un point important, je pense, par rapport à notre état de cœur, c'est de savoir que les dons spirituels sont donnés par grâce. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous permette de mériter de recevoir un don. On va pas être avec Dieu en disant oui, mais j'ai fait ça, alors maintenant tu me donnes le don de guérison, tu me donnes le don de prophétie. C'est une faveur. Et quand on lit, j'ai le verset ici, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le mot don ici, c'est charisma, ça veut dire un don gratuit, ça veut dire une faveur, une grâce. C'est comme ça qu'on peut traduire le mot charisme, en même temps un don, mais en même temps une faveur. Ça vient du verbe charis, qui veut dire donner par grâce. Ce n'est pas une récompense, c'est une faveur. Et de fait, c'est pas parce que Dieu va nous donner un don spirituel, va nous donner un don de prophétie, ça veut pas dire que ça vient pas, comment dire, révéler que Dieu est d'accord avec nous sur tout ce qu'on fait, qu'il est d'accord avec tous nos choix, qu'il est d'accord avec toutes nos théologies, qu'il estime qu'on est suffisamment saint. Non, il veut juste nous faire un cadeau à un moment où il estime qu'on va pouvoir le gérer, qu'on va pouvoir travailler avec. Donc ça ne valide pas du tout qui on est. Par contre, les dons spirituels sont vraiment à réconcilier, à concilier avec les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, tout ça. Parce que les fruits de l'esprit, finalement, c'est l'esprit qui va travailler en nous. Et les dons de l'esprit, c'est l'esprit qui va travailler au travers de nous. Et donc, si on n'est pas transformé à l'image du Christ, avec les fruits de l'esprit qui nous transforment, qui nous bonifient, entre guillemets, les dons de l'esprit vont comme être ralentis, bloqués dans nos vies, alors que plus on se libère de notre chair et puis qu'on se laisse transformer avec ces fruits de l'esprit qui viennent nous impacter, et plus on va comme pouvoir libérer ces sources d'eau vive qui coulent de nous, comme dit Jésus. Ce qui nous permet en définitive de rester très humble. Il faut le dire, parce que on ne peut pas dire par ma force j'ai acquis un don spirituel. Et pour la prophétie encore, je pense que pour le don de guérison, ça peut être un peu plus compliqué. Hop, je prie, il y a une guérison, il y a un miracle, c'est incroyable. Et là, c'est vrai que c'est visible, j'imagine que on peut facilement se dire c'est moi qui fais. C'est également très faux, en fait. C'est toujours le Saint-Esprit qui fait. On est des canaux. Et dans la prophétie, c'est pareil. Alors, comment on le reçoit, ce don de prophétie? Il y a une étape qui est le baptême du Saint-Esprit. Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance, c'est Jésus qui parle, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit, qu'on a vu sur Jésus quand il descend comme une colombe, c'est comme si les dons spirituels, c'est comme le moteur dans notre vie chrétienne, et le baptême du Saint-Esprit, c'est un peu la clé de contact. Ça va vraiment mettre en route, le Saint-Esprit va venir et va pouvoir libérer des choses. Et ce baptême du Saint-Esprit, qui peut se faire avant, pendant ou après le baptême d'eau, c'est quelque chose d'important, et je tiens à dire que j'ai longtemps eu une sensibilité prophétique sans parler en langue. C'est-à-dire qu'on n'est pas à se dire que si tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, bibliquement, c'est le signe qui a servi à Pierre, entre autres, à dire « Oh, bah mince, ils parlent en langue, donc on va les baptiser aussi d'eau. » Mais la Bible ne dit pas « Le baptême du Saint-Esprit égale parler en langue. » Donc on peut tout à fait avoir un don de prophétie sans parler en langue. C'est les dons, Paul en cite 9, on peut en avoir un et pas l'autre. Depuis, je parle en langue, bien sûr. Mais il m'a fallu plusieurs années pendant lesquelles je pense avoir reçu certaines choses qui étaient correct prophétiquement. Donc il faut aussi s'enlever cette image des fois dans certains milieux charismatiques qui veulent, qui exigent entre guillemets, comme si on avait notre passeport baptême du Saint-Esprit parce que je parle en langue. Non, c'est des choses différentes. Donc c'est quand même important de pouvoir différencier. C'est des dons spirituels différents. Alors après ce baptême du Saint-Esprit, on lit dans pas mal de versets dans le Nouveau Testament qu'il y a un transfert par la prière et par l'imposition des mains. Dans Romains 1, 11, Paul dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels ». Donc il ne dit pas « je vais vous faire du discours » seulement, il dit « je vais vous communiquer des dons spirituels ». Donc il y a une manière de entre croyants de communiquer les dons spirituels afin que vous soyez affermis. Et dans Actes 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, imposé les mains, là ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est là qu'ils disent, oh tiens, du coup on va les baptiser aussi. Dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, c'est pas. Je ne suis pas en train de dire que si on ne vous a jamais imposé les mains, vous n'aurez jamais le don spirituel. Dieu peut agir d'une manière ou d'une autre. Mais, en tout cas, bibliquement, il y a un moyen de faire un processus qui souvent passe par cette étape avec quelqu'un qui veut recevoir, qui, comme dit Paul, qui a soif de vivre, d'obtenir ce don spirituel. Et on peut prier pour cette personne pour que le Saint-Esprit vienne donner ce don. Je regarde s'il y a des trucs sur lesquels je peux passer. Alors, ce don, il vient et on peut se dire, tiens, il ne s'est rien passé. Parce que bon, ça fait pas mal à la tête. Je veux dire, on peut prier pour vous, on peut vous imposer la main, demander de recevoir un don spirituel. Ça ne va pas forcément, il va se ressentir physiquement ou quoi que ce soit. Et après, l'objectif, ça va être de commencer à expérimenter, d'essayer, de tester, d'écouter le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut dire. Et finalement, au fur et à mesure, d'exercer notre foi, parce que Romains 12, 6 dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on a la foi, on croit en Dieu, etc., on va recevoir une pensée. Est-ce qu'elle est de Dieu? Est-ce qu'elle est de moi? La foi va venir être une confirmation que ce que j'ai reçu, la pensée que j'ai, vient du Saint-Esprit ou pas. Et dans la pratique, ce qu'on va pouvoir faire tout à l'heure, ceux qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont jamais fait, si il y a juste un mot qui vous vient et que vous dites, tiens, c'est un peu, je ne sais pas ce que c'est, j'ai juste un mot. Ou des fois, on peut avoir juste une image, dire je ne comprends pas, et puis je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais le fait de commencer par là et de dire, bon, je vais quand même oser, c'est-à-dire poser un acte de foi, que c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui va bénir, on agit sur la petite foi qu'on a, et puis avec le temps, avec l'expérience, avec la sensibilité au Saint-Esprit, avec la. Parce que le Saint-Esprit va parler différemment à chacun. Le don spirituel est là, mais le Saint-Esprit nous connaît, il sait comment nous parler. Moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'images, des images mentales, et que du coup, après, je peux décrire, et puis le Saint-Esprit me montre certaines interprétations. Mais il y en a, ça va s'exprimer différemment. Et c'est en saisissant que telle chose vient du Saint-Esprit et telle autre pas, qu'on va pouvoir dire là-dessus je pose ma foi. Et comme je donnais en exemple tout à l'heure à une personne, si quelqu'un vient et que j'ai prophétiquement, je reçois qu'il va être président de la République, il va me falloir beaucoup de foi pour aller lui dire. Parce que c'est un truc énorme. On dit, oh là là, il y a des chances que je me rate, quand même. Et la probabilité est quand même faible. Ouais, mais alors, si dans les années d'expérimentation du don prophétique, tu es certain que tu es certain que tu es certain que ça vient du Saint-Esprit, vas-y. Ça peut être un truc totalement fou, complètement contraire à toutes les circonstances peuvent dire. La prophétie, ça va justement être au fur et à mesure de saisir avec de plus en plus de conviction et donc de plus en plus de foi ce que le Saint-Esprit va donner. Et le Saint-Esprit va nous entraîner justement à approfondir, un peu comme dans cette image où on va dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Et puis après, on se laisse porter par le Saint-Esprit à dire des choses qui peuvent être folles. Mais on sait que c'est le Saint-Esprit parce qu'on a appris à reconnaître sa voix. Donc on va, une fois qu'on va, on va peut-être aujourd'hui prendre le temps de prier pour certains qui le désirent, recevoir un don spirituel, c'est pas pour ça qu'ils vont recevoir des choses incroyables dans la semaine. C'est vraiment comme apprendre à marcher, c'est progressif. Et donc mon point suivant, c'est vraiment comment faire croître le don. Et il y a un aspect qui est important qui va être l'intégrité, c'est-à-dire ne pas vouloir aller plus loin que ce que le Saint-Esprit nous dit, ne pas vouloir dire plus, ne pas essayer d'interpréter humainement ce qu'on va pouvoir recevoir. Et puis l'humilité qui reste très importante, parce que sans humilité, c'est-à-dire on va avoir une pointe d'orgueil quelque part, on va chercher une reconnaissance, on va chercher à être meilleur que l'autre, on peut avoir des moments comme ça où notre humanité va venir un peu nous perturber. C'est comme ça qu'on finit par donner des fausses prophéties ou par donner des paroles dans un objectif de contrôle. Alors qu'on doit être dans la vérité et dans l'amour qui laisse la liberté. Donc c'est important parce que finalement, un don spirituel qu'on a pu recevoir va croître correctement, droit, si on est dans les bonnes attitudes. L'autre point important pour croître dans le don prophétique, c'est la fidélité. La fidélité, déjà, dans la retransmission de ce qu'on reçoit. Comme je dis, de pas tordre le message, de ne pas y ajouter notre ressenti, notre émotion. Des fois, c'est compliqué quand on veut apporter une parole à quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on va vouloir, à sa place, interpréter, ajouter des interprétations, ajouter des conseils qui ne sont plus de l'ordre de la prophétie, mais qui sont des paroles humaines. Et puis, j'en reparlerai un peu dans la session d'après, par rapport aux fausses prophéties, aux mauvaises prophéties, on va dire, et aux faux prophètes. Donc la fidélité dans la retransmission, et la fidélité, encore une fois, comme Paul le dit à Timothée, ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc toute cette démarche d'apprentissage qui est importante. Forcément, pour grandir dans le don, il va falloir pratiquer aussi. Et là, il y a tout un tas d'exercices, on va dire, qui peuvent être faits. Je crois que j'en ai quelques-uns après. On pratique pour améliorer notre capacité à être dans le mouvement que le Saint-Esprit est en train de produire, là où on est. Et c'est exactement comme un sport où, finalement, ça se muscle, ça se travaille. Alors dans le verset que j'ai lu au-dessus, c'est la première lettre de Paul à Timothée qui lui dit « ne néglige pas le don ». Et après, Paul a réécrit à Timothée la deuxième épître chapitre 1, verset 6, il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu, que tu as reçu par l'imposition des mains. » Alors tu dis, mince, il se passe entre la première et la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée à peu près un an. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que Timothée, il avait laissé tomber le truc ou alors qu'il n'était pas suffisamment comment dire, convaincu de ce qu'il avait reçu ou... Bon, en tout cas, il a besoin de réentendre. Et je pense qu'on a aussi besoin de réentendre que ce qu'on peut recevoir, que la vie prophétique, c'est quelque chose que on a besoin de travailler intentionnellement. Et ça peut devenir un vrai état d'esprit d'essayer de recevoir et de vouloir apporter des bénédictions à n'importe qui qu'on peut croiser dans la rue. Le boulanger ou n'importe qui, c'est d'avoir cet état d'esprit de dire je peux être un canal d'amour et de bénédiction pour n'importe qui que je vais croiser et du coup d'être intentionnellement à l'écoute du Saint-Esprit. Donc ne pas négliger ce don-là, si besoin de dire ah mince, je l'ai un peu laissé tomber et il faut que je relance la machine en quelque sorte. Donc cette partie-là de la session, c'était vraiment dans le sens de comment recevoir le don spirituel. Je ne sais pas si là, quelques-uns ont des questions. Après, on aura un temps questions-réponses à la fin de la troisième session, tout à l'heure. Peut-être avant de passer à la suite. Non. Soit je suis clair, soit vous êtes endormi, je ne sais pas. Ou les deux. Bon, très bien. Alors, on va passer à la partie suivante qui est comment recevoir les paroles prophétiques. Donc, il va falloir entendre le Saint-Esprit, faire le tri dans nos pensées. Et il y a quelques éléments qui sont très simples, assez basiques. Là, c'est que d'abord, être certain que Dieu parle et qu'il parle beaucoup, et que finalement, c'est à nous d'écouter, de nous rendre disponibles, de nous focaliser, parce qu'on peut passer notre journée à penser à 10 000 choses, et jamais s'être dit, tiens, est-ce que le Saint-Esprit dit quelque chose? Et donc, c'est, comme je disais, cette manière intentionnelle d'être à l'écoute. 2 Pierre 1, 21 dit, « Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc il y a ce travail d'être attentif à ce que le Saint-Esprit veut dire pour être ce canal. Et une prophétie, enfin une parole, du coup, qui peut être dite humainement, même avec des formes prophétiques, peut ne pas être une parole prophétique parce qu'elle n'est pas inspiré par Dieu. Donc, nous, le rôle dans la prophétie, ça va être d'être suffisamment attentif au Saint-Esprit pour capter sa pensée. Et savoir qu'il y a plusieurs sources. Notre tête est compliquée, des fois, on n'est pas tout seul. Déjà, on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. C'est la première chose. Et puis après, notre esprit, forcément, notre esprit, dans notre esprit se forment nos pensées, nos réflexions. Et le Saint-Esprit vient nous parler. On construit notre relation avec lui et on l'entend. Mais il faut savoir que les mauvais esprits nous parlent aussi. Donc il faut savoir distinguer des fois des choses qui vont venir comme des flèches du diable qui vient pour semer des choses qui sont fausses. Pas qu'on soit possédé, pas qu'on soit sous l'influence démoniaque, mais des manières dont l'ennemi va vouloir mettre des fausses choses dans nos pensées, de différentes manières, qui peuvent, si on ne les discerne pas, nous faire croire qu'il faut aller dans une direction alors que c'est faux. Et puis, il est également question des anges. Dans Hébreux 1, j'ai pas repris le verset là, qui sont envoyés pour aider les saints et pour transmettre des paroles. Après, ils ne vont pas parler dans notre tête. C'est une autre manière de recevoir des paroles de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Sean Bowles, qui est un prophète aux États-Unis, qui témoigne d'être visité par des anges qui lui donnent les paroles prophétiques à apporter. C'est une réalité, c'est du prophétique, c'est une manière de recevoir les paroles que j'aimerais bien vivre bientôt. Mais voilà, il y a différentes manières et il faut savoir faire le tri dans nos pensées. Et la première difficulté, c'est forcément entre notre pensée et la pensée du Saint-Esprit. Et c'est ça une grosse part de l'apprentissage du prophétique. Et c'est dans cette démarche-là qu'on croit dans la foi. Alors Dieu parle tout le temps. Et donc, on a un peu un rôle de perroquet. Voilà. On va répéter ce qu'il nous dit, en essayant de ne pas déformer. Mais aussi, ce n'est pas que des paroles. Il y a aussi le cœur qui est important, comme je disais. Parce qu'on peut recevoir quelque chose de très vrai et le dire d'une très mauvaise manière. Donc, il y a aussi la manière d'apporter, qui va correspondre. Finalement, il n'y a pas que la parole, les mots du Saint-Esprit qu'il faut transmettre, il y a aussi son cœur. Et selon les paroles, selon les personnes, est-ce que c'est une prophétie qui va être de direction, est-ce que c'est une prophétie dans la connaissance, dans la prédiction, selon tout ça, le Saint-Esprit va vouloir aussi nous partager son cœur pour la personne. Et c'est important aussi de pouvoir saisir ça. Moi, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux, vraiment, de presque pleurer en apportant certaines paroles à des gens, parce que j'ai pas seulement la parole qui va leur faire du bien. J'ai aussi le ressenti du cœur de Dieu pour cette personne. Et c'est là aussi qu'on peut être dans le prophétique au travers de l'émotion. Et c'est pas parce que là, je suis un peu contraint par le format d'enseignement de faire quelque chose d'un peu scolaire. Finalement, quand on va le vivre pour de vrai, il faut être dans la sensibilité aussi émotionnel, et puis tout ce qui fait notre personne. On parle à des gens qui sont corps, âme, esprit, dans des situations, des contextes. Et tout ça, Dieu, le Saint-Esprit, les connaît, et il veut aussi nous aider à apporter la chose. Et des fois, des gens vont avoir besoin qu'on apporte une parole prophétique d'une manière très rude. Ça arrive. Mais il faut vraiment le sentir. Parce qu'il faut le faire avec amour. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire des fois avec fermeté. Donc je vous dis pas qu'il faut pleurer à chaque fois que vous apportez une parole prophétique, mais c'est transmettre le cœur de Dieu autant que les mots qu'il veut faire passer. Alors, Dieu ne dit pas tout. Dans 2 Rois 4:27, on peut lire une histoire autour d'Élisée. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Il y a une femme qui vient. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Donc, on n'est pas non plus à recevoir toute la connaissance du Saint-Esprit, sinon on exploserait. Et il veut nous partager des choses qui sont pertinentes pour les choses qu'il veut faire, qu'il veut réaliser. Et donc, une des questions que Bernard avait mis par rapport à ce séminaire, c'est pourquoi il y, n'y a pas des prophètes qui ont dit le Covid va arriver, etc. Peut-être qu'il y en a eu, on ne les a pas entendus, à un bout ou l'autre du monde. Mais en même temps, Dieu ne dit pas tout. Et il a ses raisons. Donc, ce n'est pas à nous de décider, pas après de dire « Seigneur, toi, tu... » Bon, non, non. Soit on ne l'a pas entendu alors qu'il le disait. Ça arrive souvent. Soit il ne désirait pas partager cette connaissance en avance ou quoi. Et puis, Dieu ne répond pas forcément tout de suite au prophète. Le verset que tu m'avais donné, que j'avais déjà mis dans un coin. Dans Jérémie 42, verset 7, verset 6 même, « Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. » 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Donc Jérémie, quand même, bon prophète, hein. Bah même lui, il faut qu'il attende 10 jours pour recevoir quelque chose. Et puis, y a d'autres occasions où on voit que ben voilà, y a besoin d'attendre la réponse. Et ce qui est important de voir dans le prophétique, c'est que c'est le monde surnaturel nous est comme masqué. Et il y a l'histoire avec Élisée. Et son disciple, dans 2 Rois 6, Élisée reçoit de Dieu. Alors, c'est pas celui-là que je voulais dire. C'est le moment où la. Ah oui, voilà. Élisée qui voit l'armée de l'Éternel, les anges, l'armée céleste, et puis son servant, pas du tout. Et donc, Élisée demande à Dieu, bah, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Donc, il y a. Le prophétique qui nous emmène à voir des choses dans le monde spirituel. Alors, quand on va avoir une pensée, quelque chose qu'on va sentir comme une parole prophétique qu'on veut partager, il y a 3 parties dans la prophétie. La première, c'est la révélation. On reçoit quelque chose qu'on ne peut pas connaître, que ce soit une parole de connaissance, une prédiction pour le futur ou tout ce qu'on a pu parler. La deuxième, ça va être de cette révélation qui peut prendre des formes très variées. En général, Dieu veut donner une interprétation, une explication, c'est-à-dire que veut dire cette révélation. Et donc, il faut, faut chercher à comprendre la direction qui est donnée par rapport à la révélation. Et puis après, il y a l'aspect d'application. Qu'est-ce qu'on doit faire de la prophétie, quand on sait qu'elle signifie, ce qu'elle veut dire, on a reçu quelque chose, une révélation qui est interprétée, maintenant on en fait quoi? Donc se poser la question, éprouver la parole, on discutera de ça dans la session de tout à l'heure, éprouver la parole, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qui ne nous semble pas correspondre? Donc, d'éprouver les paroles, on verra ça tout à l'heure. Et puis, appliquer ce qu'on a reçu. Comment faire pour, du coup, comme je disais ce matin, le prophétique veut changer la vision, changer les... etc. Donc, qu'est-ce qu'on va changer dans nos vies par rapport à la parole qu'on a reçue? Et puis, dans cette application de la parole, se faire aider par des gens, des personnes qui ont déjà l'habitude, qui vont pouvoir nous aider à faire ces choix-là avec sagesse. Il se peut qu'on ne reçoive que la révélation sans la comprendre. Et c'est très bien de s'arrêter là et de partager la révélation sans l'interprétation. Parce que si on ne l'a pas reçu et qu'on essaye d'interpréter par nous-mêmes, ça va très certainement tomber à côté. Donc, si on saisit, par exemple, donner un exemple tout bête, une fois j'ai reçu une image d'un gars qui il y avait comme une colonne, c'était comme une maison en construction, il y avait un poteau et puis une poutre qui partait, mais de l'autre côté il n'y avait pas de poteau pour le tenir. Et puis il était dessus. Alors ça c'est la révélation, c'est-à-dire de manière imagée, le Saint-Esprit me montre quelle est la situation. De là, je peux dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire ce truc, j'en sais rien, et d'aller voir la personne en disant, voilà, j'ai reçu une image, je t'ai vu sur une poutre qui tenait que sur un côté. Et puis, si on s'arrête là, on n'a pas mal fait. On a transmis ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Maintenant, l'étape de l'interprétation, c'est qu'est-ce que ça veut dire que cette image ? Et là, le Saint-Esprit peut donner une interprétation. Dans ce cas-là, c'était un encouragement parce que la personne était dans une situation où tout le monde lui disait il ne faut pas le faire parce que il ne faut pas que tu ailles dans ce que tu ressens qu'il faut faire. Des gens te disent de ne pas le faire, etc. Et en fait, ça correspondait au fait qu'il manquait un poteau. Et donc, il était entouré par des gens qui disaient, comme si les gens disaient, regarde, il manque le poteau, donc il ne faut pas que tu y ailles. Et moi, je lui ai dit de la part de Dieu, vas-y, c'est de Dieu, il faut que tu le fasses. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et l'interprétation, c'était l'encouragement à décider d'agir selon ce qu'il avait à cœur, malgré ce que les gens autour lui disaient. Et dans l'application, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, ça correspond exactement à ma situation. Il m'a expliqué quoi. Il m'a dit, c'est exactement ce qui se passe dans mon implication dans l'église où je suis. Les gens me disent, t'implique pas là-dedans, alors que lui avait à cœur de le faire. Et il s'est impliqué et il a eu un impact auprès particulier du groupe de jeunes de cette église. Parce que il a réfléchi à l'interprétation. L'interprétation ne va pas forcément aller jusque dans le détail de dire tu es dans une église, tu veux faire quelque chose, les gens ne veulent pas, etc. L'interprétation peut s'arrêter à un niveau intermédiaire où on dit il y a une chose que tu veux faire, que les autres te disent de ne pas faire, mais ça se trouve, on n'a aucune idée de ce que c'est. Donc il y a, même dans l'interprétation, des niveaux de connaissances qui vont s'ajouter. Donc, il ne faut pas forcément chercher à tout connaître, tout comprendre. Il faut se lancer à partir de la révélation qu'on a. Et puis, très souvent, moi, ce qui m'arrive, c'est que je n'ai pas l'interprétation, ou seulement très partielle, quand je commence à parler à la personne. Et je dis, je vois telle chose sur ta vie, j'ai telle image pour toi. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit me communique l'interprétation que je n'avais pas avant d'aller voir. Et des fois même, le pas de foi, et c'est ça que je vous invite à faire, le pas de foi d'aller vers quelqu'un alors que vous n'avez pas tout, c'est ça qui va déclencher de recevoir la suite. Et il ne faut pas du coup se restreindre à dire « Oh là là, mais non, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas... » Ce n'est pas grave. Et on va faire un exercice prophétique après, on va se mettre par petits groupes. Et il ne faut pas hésiter à dire « Mais j'ai... Ben, désolé, j'ai juste un mot. » Ben ouais, mais des fois, c'est ça qui retourne une vie. Un mot peut suffire. Parce que c'est le mot de Dieu que la personne avait besoin d'entendre. Il n'y a même pas besoin d'interpréter. Donc il ne faut pas chercher à des niveaux incroyables de révélation et de compréhension. Donc, est-ce que ça vous soulage un peu de savoir qu'il ne faut pas être... Voilà, l'idée, c'est de se dire on ne met pas une armure de Saül, quoi. Le Saint-Esprit est là, il nous aime, il aime les autres, et puis il veut que ça se fasse naturellement, et puis dans la paix. Alors, quelles sont les manières d'obtenir ces révélations? Comme je disais, moi j'ai beaucoup d'images mentales. Ça peut aussi passer, je vais les faire rapidement, parce que je ne vais pas avoir le temps de trop s'étendre. Ça peut passer aussi par les rêves et les visions. Donc là, je vous invite à acheter le livre de Carrel. Parce que rêve et vision, alors il y a c'est des choses différentes. On peut avoir des visions en étant éveillé, des extases, comme on peut voir Pierre qui a ça, qui voit la nappe, les animaux, qu'est-ce qui se passe. Puis bon, il y en a pas mal aussi dans l'Ancien Testament. Des rêves vraiment quand on est endormi, puis on se réveille, on fait tiens, j'ai un truc que j'ai rêvé, ça me reste en tête, il y a quelque chose qui est une signification à trouver. Et puis il y a toute une manière que moi j'ai pas, à vrai dire, de recevoir, que j'ai pas encore, on va dire, de recevoir des choses. Peut-être parce que je dors pas assez, voilà. Peut-être que si je dors plus... Non mais c'est vraiment Dieu qui... Moi je connais une personne qui reçoit énormément au travers des rêves des choses très très précises. Et elle se lève le matin et fait « Ah oui, bah c'est ça, bon bah je note, c'était telle chose, ça veut dire telle chose. » Elle va voir le pasteur et puis... voilà, c'est vraiment des choses efficaces, reçues prophétiquement au travers des rêves et des visions. Alors bien entendu, il y a les histoires avec Nabucodonosor qui a des rêves, etc. Ce qui veut dire qu'on peut recevoir un rêve prophétique sans être prophète. Nabucodonosor, il a eu un rêve, il n'était pas prophète, il a reçu un rêve de la part de Dieu. Maintenant, c'est Daniel qui est venu et qui, en tant que prophète, a interprété et a apporté la parole de Dieu, parce que le rêve est n'était pas la parole que Dieu voulait donner, c'était une manière de prévenir, d'enclencher ce que Dieu voulait dire. Bon. Alors, d'autres manières dont Dieu va pouvoir nous parler, c'est une petite voix qui n'est pas audible, des fois des pensées lancinantes, comme un murmure, on voit ça aussi dans 1 Roi 19. Et une espèce de certitude, de conviction qui peut venir d'une voix intérieure. Le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur. Et dans de rares cas, ça peut être une voix audible. Alors ça, j'attends que ça m'arrive aussi. Et voilà, il y a des expériences, des gens, des témoignages, je veux dire, de gens qui ont entendu distinctement dans leurs oreilles une voix. Après, comme je disais, il y a les anges qui peuvent venir parler de la part de Dieu et du coup transmettre quelque chose. Mais on sort un peu du don de prophétie là, mais c'est quand même un mode par lequel Dieu peut transmettre quelque chose qu'on va devoir prophétiser pour le coup. La création peut aussi être une source d'inspiration prophétique. Ça peut être plein de choses très variées, de voir voilà, la provision de Dieu, de voir la beauté dans la nature, de voir toutes ces choses-là, ça peut à un moment donné, Dieu peut nous mettre ça devant les yeux et venir nous donner une parole précise pour une circonstance précise. Parce qu'on on a été impacté par quelque chose qui vient de la création. Bien entendu, l'incontournable, c'est la Bible. Et on peut se dire, la Bible, elle n'a pas changé depuis longtemps. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne va pas nous dire des choses prophétiques pour aujourd'hui, pour le moment, pour nos circonstances particulières. Donc c'est aussi important de la connaître. Mais ce qui est important dans le prophétique par rapport à la Bible, c'est, on en reparlera un petit peu dans la session d'après, que la prophétie ne contredit jamais la Bible. Ça, c'est important. Et donc le fait de la connaître permet aussi d'être en phase avec Dieu pour apporter quelque chose de prophétique qui soit juste. Les langues, donc le parler en langue, le don de parler et d'interpréter, qui est aussi une manière du coup de recevoir prophétiquement quelque chose. Et j'ai été vraiment impacté par un couple de prophètes qui sont venus il y a quelques mois dans notre église, où le mari qui venait enseigner sur le prophétique, il appelle sa femme, qui a aussi un fort don prophétique, et dit « Il faut que tu veux bien, je veux parler en langue, et puis tu traduis. » Et donc, comme on peut avoir quelqu'un qui traduit l'anglais, chacun sa phrase l'un après l'autre, il s'est mis à parler en langue, et puis sa femme était à côté, et elle interprétait ce qui était dit. Ce n'est pas de la traduction, mais elle interprétait ce qui était dit en langue. Donc, c'était une manière d'apporter un message prophétique d'une manière originale, qui démontre aussi ses qualités, ses capacités surnaturelles que Dieu veut nous donner, non seulement de pouvoir parler des langues inconnues, mais aussi de pouvoir saisir ce qu'elles veulent dire, et donc de saisir la parole que Dieu veut transmettre au travers de ces langues. Parce que comme c'est dit ailleurs, quand on parle en langue pour nous-mêmes, ça nous édifie nous-mêmes. Mais le don qui est prophétique, c'est d'interpréter la langue et donc de transmettre aux autres la parole qui est dite. Le discernement des esprits fait partie des dons spirituels qui est aussi important dans le prophétique parce que justement, il va nous permettre de discerner si les choses qu'on peut recevoir viennent du Saint-Esprit ou viennent d'un autre esprit, c'est déjà ça. Et puis également de pouvoir discerner au travers aussi des paroles de connaissance s'il y a des influences spirituelles. Donc tout ça, ça nous permet dans la pratique du don spirituel de savoir... Qu'est-ce qui se passe dans la situation dans laquelle on est impliqué par rapport au monde spirituel? Il y a également les signes et les miracles. Quand l'ange, il y a un ange qui vient voir Gédéon dans Juges 6 et il lui dit, Gédéon dit, ben... Pour démontre-moi que voilà que c'est bien toi, que tu représentes Dieu. Et il le fait au travers d'un miracle, entre guillemets. L'ange va comme manger ce que Gédéon lui prépare, mais en fait, il ne va pas le manger comme on le fait nous par la bouche. Il va faire venir le feu qui va vraiment le brûler complètement de cette nourriture. Et... Donc c'est un signe miraculeux, là la nourriture est consommée de manière surnaturelle. Et pour Gédéon, pour lui, c'est une confirmation. Dieu vient confirmer ce qu'il lui a dit, ce qu'il l'a appelé à faire. Et on peut avoir tout un tas de signes qui nous permettent aussi de saisir prophétiquement des choses à transmettre. Il y a une autre chose qui est un petit peu, comment dire, un petit peu plus délicate, c'est le fait de lire dans les pensées. On n'est pas en train de faire de la télépathie, on n'est pas en train de rentrer dans une intériorité à laquelle on n'a pas le droit. Je veux dire, on laisse les gens libres, on n'est pas là pour savoir ce qu'ils ont dans leur tête, mais le Saint-Esprit peut nous révéler, quand c'est nécessaire, ce que les personnes pensent. Jésus, le nombre de fois où il dit « mais vous êtes en train de parler de telle chose, moi je vous dis ce qui est la vérité. » Dans Luc 11, 17, il est écrit « il connaissait leur pensée ». Donc Jésus connaissait la pensée, je suis assez persuadé qu'il ne savait pas la pensée de tous les gens, parce que sinon, là aussi, il aurait fini avec une tête comme ça. Mais prophétiquement, quand c'est nécessaire, le Saint-Esprit peut nous révéler ce que les gens pensent pour montrer déjà que Dieu a la connaissance, qui connaît la personne, mais aussi qu'il y a des frères et sœurs autour qui sont là pour apporter de la part de Dieu des choses précises, surnaturelles, pour aider dans n'importe quelle circonstance. Et ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'on va donner une parole prophétique, et en particulier, je pense, quand je donne une parole prophétique, je prends un petit temps pour prier pour la personne après sur ce qui a été dit. Et c'est souvent là qu'on peut prier dans le sens de ce que la personne a en tête et verbaliser les choses dans une prière. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai un peu. Et ça peut aussi être très, un signe pour la personne qui reçoit, de dire, ah mais, un peu comme on a vu ce matin dans la vidéo, mais comment il connaît tout ça? Comment il sait? Et c'est simplement au travers du Saint-Esprit qui veut bénir et qui dit, ben, c'est bien que tu comprennes, que je te connais, que je sais ce que tu penses, que je vois ton cœur, en permettant à quelqu'un d'autre de le dire. Les circonstances aussi parlent beaucoup. On dit souvent, Dieu ouvre des portes, ferme des portes. Et quand on essaye de comprendre certaines circonstances, on a des révélations prophétiques grâce à un discernement que Dieu peut nous donner sur les événements et du coup de pouvoir interpréter prophétiquement ce qui se passe. Apocalypse 3.8 dit « Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Il y a vraiment les circonstances où Dieu va ouvrir des portes, va en fermer d'autres, et il faut savoir le discerner parce qu'il faut savoir que l'ennemi aussi ferme des portes et ouvre des portes. Et des fois, on peut se dire, dans ma vie, il y a une porte qui est fermée, donc Dieu ne veut pas que j'aille par là. Hein, peut-être que Dieu veut que tu ailles défoncer la porte. Des fois, on veut défoncer la porte que Dieu a fermée. Ça arrive aussi. Donc dans les deux sens, le prophétique est là pour nous aider à discerner dans les circonstances qu'est-ce qui va être de Dieu et quel chemin il veut qu'on prenne. Et s'il nous dit de prendre la porte de droite qui est fermée alors que la gauche est ouverte, il faut suivre sa direction. Il va donner le moyen d'ouvrir. Et ce n'est pas parce que la porte de gauche est ouverte que c'est celle-là qu'il faut prendre. Et ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'à gauche c'est un raccourci que c'est par là qu'il faut passer. Donc tout ça, le prophétique est là pour nous aider à le saisir et du coup à faire des choix dans nos vies qui sont pertinents et qui nous permettent d'être pleinement dans ce que Dieu veut qu'on vive. Dernière chose, avant de dire trois mots sur la pratique, et puis on va y aller. Les événements spirituels aussi, les événements naturels qui peuvent coïncider. J'ai noté un exemple, le bâton d'Aaron qui fleurit miraculeusement. C'est pour montrer que Aaron est celui qui est oint de Dieu pour la mission qui lui a été accordée. Et donc, il peut y avoir comme ça des événements spirituels et naturels qui coïncident et des signes miraculeux qui permettent de confirmer, qui permettent de montrer des choses de la part de Dieu. Donc, ça fait beaucoup de manières dont Dieu peut nous parler. J'ai repris quelques points d'un manuel de Chris Vallotton par rapport à des suggestions pour pratiquer la prophétie, c'est-à-dire comment on se met en route, comment on s'entraîne. Donc il y a juste 6 points, et puis très rapide, puis après on va se mettre en petit groupe. Des exemples de comment travailler les choses. Prophétisez votre journée. En se levant le matin, priez et demandez à Dieu une information à propos d'une chose qui va se passer dans la journée. On peut noter, et puis le soir, on reprend notre note et on dit « Oh, j'avais bien Et j'avais oublié ce que Dieu m'a dit, et puis, oh, finalement, oui, ça s'est passé. Donc, c'est une manière de dire au Saint-Esprit, viens me communiquer quelque chose pour ma journée, et que je puisse apprendre à t'entendre, à discerner. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, autant il faut se permettre de ne pas aller loin dans la parole prophétique si on n'a pas reçu d'aller loin, et autant il faut se permettre aussi de faire des erreurs. Parce qu'on est humain, on va avoir nos pensées, on va avoir tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui peut venir nous parler. C'est une manière, par exemple, de s'entraîner pour soi-même à recevoir des choses prophétiques et donc s'entraîner à entendre le Saint-Esprit qui va faire de mal à personne, entre guillemets, parce que si on se trompe, c'est pas grave. Et comme ça, au fur et à mesure, d'arriver à discerner des choses de plus en plus précises. Une autre manière de faire, c'est de pratiquer la parole de connaissance. Là, ça peut être, selon les circonstances, un petit peu plus un challenge. Mais par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est de parler avec quelqu'un et puis d'essayer de, par exemple, demander au Saint-Esprit, mais combien d'enfants a cette personne ? Et puis dans la discussion, on se présente, on parle. Et puis à un moment donné, de demander à la personne, vous avez combien d'enfants ? Bon, c'est tout simple. Ça ne provoque pas de choses désagréables. Mais ça nous permet de recevoir, de discerner. C'est un entraînement. Et comme je disais tout à l'heure, il faut pratiquer selon notre mesure de foi dans le prophétique. Et c'est des petits exercices pratiques qui permettent que notre mesure de foi augmente. Et le jour où on a quelque chose de sérieux, le jour où on a quelque chose de public, on a notre mesure de foi qui est déjà travaillée et qui va nous permettre d'apporter les choses parce que on a une conviction plus forte que c'est une parole de la part de Dieu. Alors on peut le faire aussi en duo, c'est-à-dire trouver une personne et puis se mettre dans une dynamique de prier l'un pour l'autre et de recevoir des choses l'un pour l'autre avec un ami, avec un frère, une sœur, une manière de dire et puis des choses qui sont pas forcément importantes pour la vie, mais par exemple des paroles de connaissance, là encore, de quelqu'un qu'on connaît, un ami, mais du coup en fait il est né dans quelle ville ? Je ne sais pas. Mais Saint-Esprit, il est né dans quelle ville ? Et puis, ah tiens, t'es né dans cette ville ou pas ? Oui. Ah, bah le Saint-Esprit m'a parlé. Ah bah non, c'était pas là. Oh, bon. Bah, je me suis trompé. Et puis, c'est pas grave. C'est parce que j'ai voulu avoir quelque chose, donc j'ai pris un nom de ville parce que... bon, puis c'était pas ça. C'était, pour le coup, c'était pas le Saint-Esprit. C'était moi. Mais c'est pas grave. Puis on va recommencer. Puis au fur et à mesure, on s'aiguise. Les paroles de connaissance aussi pour la guérison. Ça peut être un bon moyen de s'entraîner. D'essayer. Pour la guérison, il peut y avoir un peu comme la personne qui priait ce matin dans cette vidéo. Je sens que vous avez un problème au genou droit, je prie pour tel machin, truc. Ah bah oui, c'est complètement ça. La prophétie en groupe, c'est un peu ce qu'on va s'amuser à faire. Dans des petits groupes où on n'est pas en train de dire « L'Éternel te dit qu'il faut que... » Non, c'est... J'ai une image, j'ai un encouragement, j'ai un mot, et puis on va aller comme ça en croissant. Et ce qui est aussi intéressant comme travail prophétique, c'est l'intercession prophétique, c'est-à-dire de chercher à recevoir, quand on prie, quels sont les sujets pour lesquels Dieu veut qu'on prie. Ça, c'est une chose intéressante à vivre. On peut prier pour une personne sans qu'elle le sache forcément, et puis de dire « Seigneur, je te prie de bénir cette personne, etc. et permets-moi de recevoir un message de ta part qui va la bénir. » Et puis là, on peut juste, dans notre chambre, avec notre petit calepin, dire « Voilà ce que je ressens, voilà ce que je reçois pour cette personne pour qui j'ai prié. » Et puis on va lui envoyer un SMS, un email, un truc. Et puis la personne va faire un retour, merci, ça me touche, ou alors il se passe rien parce que bon, c'était pas le Saint-Esprit qui nous parlait à ce moment-là. Voilà, puis on apprend. Donc, c'est dans la simplicité qu'il faut que ça se fasse. Et c'est dans cette simplicité-là que je vous invite à faire des petits exercices, un exercice. En petit groupe, je ne sais pas, on va se mettre par 4, maximum 5, pour finalement passer chacun dans les petits groupes. On va prendre la première personne et les trois autres vont écouter Dieu pour cette personne et lui transmettre ce qu'elles ont reçu. Et puis après on passe à la deuxième personne, on dit pour toi, on écoute Dieu, et puis on peut prendre le temps comme ça, il n'est pas trop tard, j'ai pas trop débordé, de permettre comme ça que pour les quatre personnes, chacune, on puisse lui donner les paroles que chacun reçoit. Et il ne faut pas réfléchir pendant des heures. Qui n'a jamais prophétisé? Tout le monde a déjà prophétisé? Ben, je parle pour rien, si. c'est juste pour se mettre à l'aise, dans le sens où il ne faut pas réfléchir pendant 5 minutes à dire « qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Il faut être très simple, et des fois, très souvent, la première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est ce que l'esprit veut dire. Et à partir du moment où on réfléchit, qu'on essaye de comprendre, etc., là, il y a notre petite machine qui se met en route. Et on peut finir par, ajouter des choses ou transformer un peu la parole. Et après, c'est absolument pas grave de rien recevoir du tout. Franchement. On n'est pas là pour avoir une note à la fin, pour avoir un diplôme. On n'est pas là pour essayer de faire mieux que les autres. Le don prophétique, c'est un don. Tout le monde ne l'a pas. Et peut-être que certains ne l'auront pas sous forme de don spirituel parce qu'ils auront d'autres capacités, qu'ils auront d'autres qualités que Dieu va leur donner. Donc, c'est pas grave. Après, si c'est juste un mot, c'est juste un mot. Si c'est juste une image sans interprétation, ce sera tout. On n'a pas besoin d'avoir l'interprétation. Et de mon expérience, quand j'ai fait cet exercice, c'est encourageant parce qu'on arrive très souvent à trouver une cohérence entre ce qu'on a reçu pour la personne. Et des fois, quelqu'un a dit juste un mot. Et puis l'autre va pouvoir rajouter, et l'autre va pouvoir interpréter. Et finalement, une parole prophétique peut être quelque chose de communautaire, on va dire. Une parole prophétique peut être reçue par plusieurs. Et c'est un exercice qui permet de dire, ben, toi tu as une pièce du puzzle, moi j'ai la suite. Et puis le tout, c'est que la personne reçoive quelque chose qui va la bénir. Alors, comme ce matin... Je vous invite à vous mettre avec les gens que vous connaissez le moins possible. Et je pense que des groupes de 4, c'est bien, sinon... Et de pas de pas parler pendant 10 minutes, parce que sinon ça passera pas. Une parole prophétique, ça peut être très rapide. Et ça permet que chacun dise puisse parler. Sinon, on fait des groupes de 4 et au bout de la deuxième personne, ça fera une demi-heure et les deux autres n'auront rien reçu, donc ce serait dommage. Voilà, et ben go, et puis que Dieu bénisse tout un chacun dans ce moment de fun avec le Saint-Esprit.